une incurie totale de l'État, plus qu'une mauvaise volonté vraiment de la part de l'État pour accueillir les migrants. Mais je pense qu'effectivement, une des solutions, c'est de créer le plus possible de rapports individuels entre les personnes. Parce qu'à partir du moment où on crée des rapports individuels, on peut aider, accompagner une personne, par exemple, pour des démarches administratives, juridiques, faire en sorte qu'elle ne soit pas totalement isolée, l'aider à trouver les bonnes associations, etc. Par exemple, quelqu'un qui ne parle pas français, trouver les bonnes associations, etc., même en allant sur Internet, c'est super compliqué, quoi. Alors que vous passez 3 coups de téléphone, vous avez la possibilité des fois de vous dire, le problème, il est, t'as reçu tel document, même si moi, je connais pas, j'ai un petit peu plus habitué au jargon administratif français, je peux voir un petit peu, et se dire, la situation, elle est complètement bloquée et c'est inextricable, mais je peux accompagner et expliquer la situation de la personne pour Et puis ça, des fois, ça change aussi la personne d'administration quand elle voit débarquer des Français à côté. Des fois, elle change de ton, ce qui est triste, ce qui est tout ce qu'on veut, on voudra, mais bon.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue Olivier Favier, l'auteur de chroniques d'exil et d'hospitalité. Vie de migrants ici et ailleurs, livre paru aux éditions du Passager clandestin.
Vous voulez une histoire d'un homme, une histoire d'une femme, une histoire d'un jeune.
D'un jeune. Ou l'autre âge, pourquoi pas.
Vous avez quel âge?
18.
18
19.
19.
Je vais vous lire le début de l'histoire d'un jeune qui habite à Nantes, qui s'appelle Mohamed et qui a 19 ans maintenant. Voilà, c'est lui Mohamed. Peut-être que vous l'avez déjà croisé.
Je ne connais pas.
Non plus.
Mohamed sourit. Je suis né en Côte d'Ivoire, mais je suis burkinabé, le pays des hommes intègres. Nous avons déjeuné ensemble à Nantes, chez des amis communs, une maison simple et chaleureuse, avec deux chats, des livres et ce qu'il faut de désordre pour se savoir en vie. Il faut que tu rencontres ce garçon, m'avait dit une militante locale au téléphone. Il a traversé l'Afrique pour aller à l'école. Nous sommes assis au salon, la chatte a sauté sur ses genoux, puis elle bondit de nouveau sur le dossier du canapé, juste derrière lui. Alors que je sors mon cahier, Mohamed feuillette un album illustré qui doit parler de science ou d'histoire, un de ceux qu'on offre ici aux jeunes adolescents, un livre comme il n'en a pas eu. Je vois son regard qui se déplace agile sur la page, il y a déjà quelque chose d'un lecteur averti qui va à l'essentiel. Je viens d'achever mes préparatifs et il relève aussitôt les yeux. Sa réaction à ma première demande me fait sourire à mon tour. Peu à peu, ses réponses se feront plus longues et mes questions ne viseront plus guère qu'à obtenir de simples précisions. Je l'écoute. Mohamed aura 18 ans en juin. Il est l'avant-dernier d'une famille de 8 enfants auquel s'ajoutent 3 demi-frères, son père ayant eu 2 femmes. Ses parents sont décédés l'un et l'autre l'an dernier, à un mois d'intervalle. Son père a été victime d'un accident de la route alors qu'il effectuait un déplacement en taxi pour son travail. Emmené à l'hôpital, il n'a pas survécu à ses blessures, n'ayant pas d'argent pour se faire opérer. Sa mère a succombé, m'explique-t-il, à une crise de rhumatisme. Il cherche le mot, que je lui souffle, mais ce curieux diagnostic laisse surtout penser qu'elle est morte, elle aussi faute de soins. Mohamed ne sait pas exactement quel âge ils avaient, il essaye de se souvenir, à ce qu'il me dit, son père devait avoir une 50aine d'années. Il me reste ma petite maman, elle sait lire, écrire et parler français, s'empresse-t-il d'ajouter. Sa petite maman, c'est la deuxième femme de son père, c'est comme ça qu'on dit en Afrique, me précise-t-il aussitôt. Dans sa voix, ses mots trahissent une émotion qui balaie la pudeur d'un simple usage. Mohamed est un enfant qui a grandi trop vite et qui entre orphelin dans l'âge adulte. En Côte d'Ivoire, Mohamed est le seul de la fratrie à être allé à l'école jusqu'en 5e. À la rentrée suivante, son père a cessé de payer l'école pour scolariser ses demi-frères. C'était une école privée car je n'étais pas ivoirien, il fallait tout acheter, l'uniforme, les fournitures. Durant l'été, Mohamed a fait des petits contrats dans un abattoir, mais ce qu'il a gagné n'a suffi que pour un seul trimestre. Après, m'explique-t-il, je ne pouvais pas travailler suffisamment et suivre les cours. Durant cette période, sa mère et son père se séparent, sa mère part vivre chez son frère et son père reste chez sa deuxième épouse. À la faveur du désordre familial, en 2012, Mohamed choisit seul de tenter sa chance au Burkina Faso. Il pense pouvoir s'y inscrire à l'école publique, mais les places manquent là aussi. Dans ce qu'on lui dit être son pays, la Côte d'Ivoire applique le droit du sang, il se retrouve de nouveau étranger. Il travaille quelque temps avec le frère de son père, puis il entame un long voyage vers le nord. Il arrive là d'abord au Niger, là il ne trouve même pas un endroit pour dormir. La nuit, il hante comme d'autres gamins les abords de la gare de Niamey. De toute façon, mon rêve était de travailler dans le milieu marin et au Niger, il n'y a pas la mer. Pour 35 000 francs CFA, environ 50 euros, il trouve des passeurs pour l'emmener en Algérie, à Tamanrasset. Dans les ghettos, les migrants plus âgés ne sont guère encourageants. Il essaye de s'inscrire en plomberie, mais en vain. À Guardaïa, grâce au HR, il trouve une place pour une formation dans le milieu social. Mais les conditions sont très difficiles. Les cours sont en arabe, une langue qu'il ne connaît pas. Il ne faut pas croiser le regard des filles, même inopinément. Dérouté par ces codes qu'il ne comprend pas, il s'attire quelques ennuis à la sortie des cours. Une fois encore, il se rend compte qu'il n'a pas terminé son voyage. J'ai travaillé dans des champs de blé, d'olives, de pommes de terre. Avec l'argent, je suis allé au Maroc et j'ai aussi envoyé un peu d'argent à ma mère. Passé la frontière, il est employé 10 heures par jour pour gagner 7 euros. Au Maroc, me dit-il, l'esclavage n'a pas été aboli, il a été modernisé. Il dort dans les ghettos, puis il rejoint la forêt qui longe l'enclave espagnole de Melilla. Ce lieu est presque un monde à part, certains sont là depuis plusieurs années. Le matin, on fait un jardin de thé avec des feuilles d'olivier. Vers midi, on part fouiller les poubelles, on récupère des tomates, des pâtes et des têtes de poulet, puis on fait cuire le tout sur des feux de fortune. On dort vers 21h car la police passe tôt dans la nuit, vers 3h du matin. Dans cette zone de non-droit, les migrants ont été battus à mort et pour tenir le coup, la communauté est soumise à une sorte de discipline militaire. Après quelques semaines, ils quittent la forêt. J'ai vu que ce n'était pas un endroit pour moi. À Tanger, il s'organise avec d'autres jeunes, tous plus âgés que lui. Ils sont 9 et décident d'emporter chacun 100 euros pour mettre en place leur projet commun. L'objectif est atteint 6 mois plus tard. Ensemble, ils acquièrent un Zodiac, une pompe et un seau pour écoper. Personne ne sachant nager, ils achètent aussi des gilets. Il est le seul à en être à sa première tentative, les autres ont déjà essayé de passer 6 ou 7 fois. Pour se rendre jusqu'à la plage, en pleine nuit, ils payent un genre de passeur que les migrants appellent ici l'automafia. Arrivé sur place, tout le monde se relaie pour gonfler. Dans l'embarcation, l'un d'eux se couche à l'avant pour maintenir l'équilibre. 6 autres pagaient et un 8e motive l'équipage. Mon rôle à moi était de rester à l'arrière pour écoper. Cette nuit-là, pourtant, la mer est trop grosse. Ils s'essayent de prendre le large sans succès jusqu'à 6h du matin. Finalement, ils se résignent à cacher le Zodiac et à rentrer à pied. 2 mois plus tard, nous sommes à la fin 2013. Ils tentent de nouveau leur chance. L'embarcation n'a pas changé de place, personne ne l'a détériorée. Mais durant la mise à l'eau, ils perdent 3 pagaies et le seau. Qu'à cela ne tienne, ils poursuivent l'aventure. Le Zodiac dérive de 3h à 10h du matin. À un moment donné, l'un des jeunes s'étend au milieu de l'embarcation, il n'en peut plus. Les autres essayent de le relever, mais en vain. La place se met à manquer, il faut garder un pied dehors. Tous sont pétrifiés par la peur, car le bateau n'arrête pas de tanguer. Ils renoncent à pagayer et appellent la Croix-Rouge espagnole. Plusieurs bateaux passent sans les voir avant qu'ils ne soient repérés par un hélicoptère. Arrivé à l'hôpital, on leur annonce que leur ami est mort depuis 2h. Les 8 autres sont placés en rétention durant 2 mois. À sa sortie, Mohamed refuse de signer une demande d'asile. Les autorités lui proposent de prendre un billet pour une destination de son choix. Il choisit Bilbao, la grande ville la plus proche de la frontière française. Son objectif n'a pas changé, il veut aller à l'école. Dans le sud de l'Espagne, c'était très dur, il y avait beaucoup de racisme. Les gens te traitaient de puta de negro dans la rue, on te crachait dessus. Au foyer ivoirien, les gens se cotisent et lui coupent, lui achètent un billet de train pour Paris. Là, il passe un peu de temps dans 2 squats, l'un à Montreuil, l'autre à Saint-Denis. Puis il reprend contact avec un ami qu'il a connu en Algérie, qui maintenant vit à Nantes. Il lui conseille de le rejoindre. J'ai pris le TGV à Montparnasse. Je suis resté 2 ou 3 mois dans le squat, puis 3 ou 4 chez un Ivoirien. Quand il s'est marié, c'est devenu compliqué. Je suis retourné au squat. Voilà, je vous dis peut-être pas jusqu'au bout, parce qu'après, c'est son parcours nantais.
C'est fort et ça soulève plein de sujets, je trouve. Surtout, ça humanise l'image du migrant. On a l'impression de considérer juste bah, le migrant qu'on voit aux infos. Et là, on a une histoire, l'histoire d'un jeune bah, qui est comme nous. Ouais, ça soulève plein de sujets, la place de la femme. Et puis juste ce combat pour accéder à l'éducation qui est... impossible pour eux.
C'est ça, c'est des parcours assez extraordinaires. Et puis je pense que, oui, comme dit Louis, ça humanise. Et puis voilà, c'est pas juste l'image qu'on en a à la télé. Et puis je pense qu'il faut que les gens se fassent une autre idée et que ces gens qui veulent ce dont nous on a accès assez facilement, dont eux ils ont du mal. Et puis voilà, je pense que c'est important de remettre les choses dans le contexte.
Moi, je trouve que ça montre vraiment la difficulté des gens qui veulent rentrer dans un pays. Genre, ils ne connaissent pas, pas forcément la langue et tout. Et du coup, je sais pas, ça montre, comment dire, je perds mes mots.
Le courage qu'ils ont, voilà. Je pense. Déjà, le parcours qu'ils ont. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ces personnes-là sont jeunes, souvent seules aussi, confrontées à ce genre de choses. Il faut se mettre à leur place, quoi. C'est pas facile.
Là, il y a de plus en plus de jeunes en plus. Là, cette année, il y a énormément de mineurs isolés. Là, j'ai entendu un reportage ce matin, il parlait de plus de 500 mineurs isolés à Calais. Avant, il n'y en avait quand même pas beaucoup. Et là, c'est vraiment. Puis parfois, c'est des petits, quoi. Ils ont 11 ans, 12 ans.
Les enfants qu'on grandit trop vite, c'est voilà. La perte de l'enfance. Ouais, aussi. Ouais.
Beaucoup d'Afghans. Puis des gens qui, parfois des gamins comme ça, même petits, qui ont fait le voyage tout seul déjà. C'est qu'ils sont même pas qu'ils sont retrouvés tout seuls ici, c'est qu'ils ont fait tout le voyage tout seul, quoi. Alors quand c'est vraiment des très très jeunes, des fois ça fait des gamins qui sont très sports. mais les jeunes de votre âge, j'en connais pas mal et c'est des jeunes qui sont vachement chouettes, quoi. Parce que d'abord ils sont courageux et puis ceux qui sont arrivés jusque là, en général, ça va, quoi. En termes de volonté. De capacité d'adaptation à des situations nouvelles, en général ils sont assez costauds, quoi. Puis ils sont super ils ont plein de choses à raconter aussi, quoi. Plein d'expériences.
Question, c'est comment on peut basculer, enfin en entendant ces récits là comment après on peut basculer dans la haine et puis dans la peur de l'étranger, quoi, sachant que ce sont des gens comme nous qui cherchent juste à avoir une chance. Et comment on peut juste les considérer comme des intrus, comme des voleurs, des...
Parce qu'on leur pose pas souvent la question, en fait, tout simplement. Je crois que c'est pas... quand j'ai commencé à faire ce bouquin, là, c'est vrai que ça a un petit peu changé depuis un an, mais quand j'ai commencé à faire ce bouquin, au départ, c'était pas un projet de livre, c'était juste des articles que je publiais sur un site.
Sur plusieurs sites.
Sur plusieurs, mais enfin, principalement sur le mien. Après, il y a eu d'autres choses, mais donc le gros du travail, c'était un travail un peu autonome. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'avait frappé. Enfin, je me disais, bon, ça sert à rien si c'est pour raconter ce qu'il racontait ailleurs. Voilà, moi, ça m'intéressait pas beaucoup. Ce qui m'intéressait, c'était essayer de raconter justement ce que les autres racontaient pas, et donc voir quel angle. Et ce qui me frappait, c'était effectivement qu'au mieux, on avait, voilà, quand on demandait des histoires, je me souviens d'un article de Libé, je crois, où c'était 3 portraits et c'était quoi, allez, 500 signes par portrait, donc c'était vraiment un CV quoi. Donc c'est bien, ça donne une idée un petit peu, voilà, des difficultés, mais à aucun moment en lisant ça, vous aviez une photo, vous aviez un récit très sec, et voilà. Mais non, là c'était juste, donc au contraire, c'était très froid, c'est-à-dire qu'il y avait un côté un peu déshumanisé, et comme si, voilà, je vous demandais maintenant, voilà, racontez-moi toute votre vie en 500 signes, bon ben, on va pas rentrer, voilà, on va pas savoir vraiment qui vous êtes. Si je vous laisse parler pendant une heure, ou deux heures, là, il y a des jeunes qui m'a parlé pendant 6 heures. Et là, effectivement, on voit plein de choses, on comprend plein de choses, et puis ça lui laisse le temps aussi de... Et on comprend, parce que, bon, le diable gît toujours dans les détails, mais dans des histoires comme ça, c'est souvent des choses qui semblent, au départ, une anecdote, qui révèlent plein de choses. Voilà, enfin, des éléments de récit, moi, voilà, et puis des choses qui marquent la personne qui raconte, et puis la personne qui écoute aussi, et puis après, la personne qui lit, parce que, moi, ce qui m'a marqué dans les histoires, c'est pas forcément ce qui va marquer un autre lecteur... Voilà, par exemple, là, l'histoire de Mohamed, elle va aller au théâtre avec lui, qui va jouer. Et donc, ça va être, par contre, ça ne va pas tourner à Nantes pour le moment, en tout cas. S'il y a un théâtre de Nantes qui voulait bien se bouger, ça serait bien, d'ailleurs, au passage. Non, ça va être créé à Vienne, à côté de Lyon, en Isère. Puis après, ça va tourner à Marseille, etc. Et la metteuse en scène, donc, qui était venue à Nantes, je lui parle de Mohamed, elle me dit « Ah, mais je veux le rencontrer !» Donc, on passe un week-end avec lui, et puis il nous raconte d'autres choses encore plus que ce qu'il a raconté dans cet entretien-là, dans ce premier entretien. Et puis, il racontait des choses aussi de son enfance, etc., pas simplement le voyage. Et à un moment, ce qui a frappé Antonella, et qui est devenu le titre du spectacle, c'est qu'il racontait que sa mère, qui avait 8 enfants, donc qui avait beaucoup de choses à faire, etc., en fait, quand il y avait un enfant qui avait fait une bêtise, elle coupait du piment en petits morceaux, c'est ce que font les mamans en Côte d'Ivoire, et elle mettait le piment dans les yeux. Voilà, et donc c'est assez...
Ça vous fait rire, vous.
Oui, non, c'est assez cruel, mais oui. C'est un rire noir. Oui.
C'est du piment, en plus c'est du piment africain, donc c'est pas du piment comme ici, quoi. Déjà, rien que le manger, il faut être un peu prévenu. Et donc elle a appelé le spectacle du piment dans les yeux.
D'accord.
Voilà, et qui raconte aussi qu'il y a un peu du coup, voilà, qui dit beaucoup de choses sur tout ce qu'il a vu lui aussi, parce qu'il s'en est pris un peu du piment dans les yeux en faisant tout ce voyage aussi des violences, des pas seulement, enfin aussi des petites corruptions, des rapports de pouvoir, puis des amitiés aussi, des tas de choses qui sont... Voilà, il y a des tas de choses belles aussi, des tas de raisons d'être fiers aussi de ce qu'on a fait, quand on a fait un parcours comme ça. C'est marrant parce que d'ailleurs, ils ont un discours très souvent très féministe. C'est quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. Et puis, il y a toujours une grande admiration pour les femmes, pour leur mère, parce que souvent, c'est leur mère qui les a soutenues. Parfois, ça fritait avec le père, mais en général, voilà, la mère, elle pardonne tout. Et puis, tant que son fils est vivant, ça va, quoi. Il y a une scène, mais ça, il ne me l'a pas raconté au premier entretien, mais après, il est allé plus loin. Et puis, il m'a raconté, en fait, son père est décédé quand il était déjà en voyage. Et à plusieurs reprises, comme il était parti, en fait, il a dit ce qu'il allait faire à sa mère, mais il ne l'a pas dit à son père. Son père ne voulait pas qu'il parte. Et donc il l'appelait régulièrement et son père ne le répondait pas au téléphone, il raccrochait. Et juste avant de partir, il avait très peur parce qu'il avait peur de mourir, il risquait de mourir en traversant. Il a, sur le trajet Gibraltar, il a appelé son père en disant « Tu me pardonnes ?» Et son père lui dit « Oui ». Et là, il m'a dit, je me suis dit que ça pouvait, voilà, j'allais y arriver, que c'était bon parce que mon père m'avait pardonné. Et puis c'est la dernière fois qu'il lui a parlé au téléphone. Voilà. C'est des histoires qui sont... Enfin voilà, quand on se retrouve avec des jeunes comme ça qui ont 18 ans, ils ont vécu des choses... C'est des romans, quoi. C'est des romans. C'est des romans comme les romans du 19e siècle, quoi, avec des histoires costaudes qui vous secouent dans tous les sens.
Nous accompagnons dans la rue Olivier Favier, l'auteur de chroniques d'exil et d'hospitalité, vie de migrants ici et ailleurs, livre paru aux éditions du Passager clandestin.
Il y a de plus en plus de femmes et de jeunes qui arrivent là. Donc c'est encore une raison de plus pour créer des liens, parce qu'il y a aussi tout l'aspect psychologique, quoi, de pas être seul, quoi, de pas être seul. C'est souvent ça. Enfin, moi, des fois, je me dis, mais imaginez, je sais pas, on va prendre un exemple qui pourrait arriver, quoi, un énorme accident nucléaire en France, par exemple, et qu'on soit obligé de partir à plusieurs millions, et qu'on se retrouve, je dis n'importe où, n'importe quoi, enfin, je veux dire, au Japon ou en Chine, un pays où on ne maîtrise pas l'alphabet. Bon, là, ce n'était pas le cas de Mohamed, parce qu'il parlait français, etc. Mais bon, il y a des jeunes qui arrivent, qui sont même pas capables de déchiffrer les lettres, parce qu'ils parlent pas. Ils écrivent en arabe ou ils écrivent dans une autre langue où il n'y a même pas l'alphabet latin. Donc, ils sont complètement perdus, quoi. Certains parlent anglais, mais pas tous. Là, l'important, c'est véritablement tous les liens qu'on peut tisser, quoi. De se dire, effectivement, il y a des gens qui sont bienveillants. Et puis, c'est des liens aussi qui apportent beaucoup à tout le monde. J'ai jamais autant appris qu'en faisant ce bouquin. J'ai fait 3 fois le tour du monde.
On va vous remercier pour votre écoute.
Merci à vous.
Très content de vous avoir rencontré.
De même. De même, c'est fort. Ce que vous avez écrit, ce que vous avez entendu, c'est fort. Et puis, je pense que beaucoup de gens doivent avoir conscience de ça. Et ouais, c'est important.
Libérer la parole et ouvrir nos esprits, quoi. Se sortir de notre bulle confortable. Et aller à la rencontre des gens, en fin de compte.
Il y avait eu une très très belle exposition à Lyon qui s'appelait Lyon l'Italienne. Comme je donne des cours d'italien, enfin je donnais parce que je vais arrêter là cette année, mais je donnais des cours d'italien à la fac. Et du coup, il y avait pas mal je faisais souvent parler de sujets autour des migrants, de l'immigration et de l'immigration, puisque l'Italie est passionnante pour ça. C'est-à-dire que ça a été le plus grand pays d'immigration, et puis aujourd'hui c'est un grand pays d'immigration, en Europe, en tout cas à l'échelle européenne, dont on parle beaucoup d'ailleurs par rapport à la crise de l'accueil des migrants. Et je leur disais, vous savez, le jour où on fera une exposition qui s'appellera Marseille l'Arabe, on aura gagné quelque chose. C'est-à-dire que c'est effectivement des vagues de migrants qui d'un coup sont acceptés et deviennent une richesse. Et je me disais, c'est fabuleux, parce que pour les gens justement de la génération de mon grand-père, savoir qu'un jour, effectivement, on pouvait faire une belle expo dans un lieu officiel, en valorisant justement comme un patrimoine le fait qu'il y a une communauté italienne à Lyon, c'était inimaginable il y a encore 50 ans ou 60 ans. Et c'est une magnifique victoire, et l'exposition était très touchante, elle abordait plein de choses. Et on retrouvait effectivement, mélange parfois inextricable des migrations économiques et politiques, des tas de raisons différentes, des destins, des histoires, des communautés qui se créent, des magasins, enfin voilà, tout un tas de choses qui ont évidemment... continuer à enrichir le Lyon, quoi, la culture de cette ville. Un pays d'immigration devient forcément un grand pays quelque part, parce que il s'enrichit de toutes les cultures du monde. Ça, c'est très banal ce que je dis, mais c'est vrai qu'on a tendance à tellement l'oublier que voilà. J'ai fait pas mal de présentations en librairie. Il n'y a pas toujours beaucoup de monde. On est un petit peu souvent... je voulais éviter un petit peu justement l'entre-soi, c'est-à-dire d'avoir un public fait d'abord de travailleurs sociaux, de gens qui sont déjà sensibles à ces questions, même si je pense que de toute façon, même en direction de ce public-là, c'est pas inutile, parce que très souvent, quand on travaille avec les migrants, on n'a pas le temps de creuser les choses. Moi, je l'ai fait parce que d'une certaine manière, j'avais pas de... Mon objectif, c'était pas d'accomplir avec eux des tâches pratiques. J'étais là pour les écouter, pour rencontrer. Donc j'avais un peu le beau rôle. C'était plutôt confortable, finalement, le rôle que j'ai eu. Même si après, de temps en temps, je laissais tomber mon cahier, puis j'allais faire des choses plus concrètes. Mais disons que j'étais d'abord là pour poser des questions, pour entendre des récits, pour essayer de comprendre, analyser, etc. Thank you.
laisse là.
Michel, bah non, c'est la mise. Alors je suis avec un super groupe,
Balkany Project.
Et ils jouent là et ils ont un nouveau tube qui s'appelle Zera Zera Caramella. Donc voilà l'instigatrice du morceau, la muse.
Et qui a l'air d'être un peu fatiguée.
Ouais, parce qu'elle bosse la pauvre. Elle est punie.
Et moi je te présente Olivier.
Salut Olivier.
Fabien.
Bonjour.
Il vient de sortir un livre.
Oui, je me balade avec les bouquins.
Chronique d'exil et d'hospitalité.
Moi je me balade pas avec mon bouquin quand même tout le temps. Mais...
Super. Super. Migrants d'ici, d'accord. T'as rencontré des migrants, ce sont des témoignages.
Beaucoup.
Pas que, mais pas mal, ouais.
Vous connaissez ?
Oui.
Ça va bien ?
Bah oui, ça va bien.
Bah oui, enfin.
Vous connaissez comment ?
Je l'avais invité, enfin, on l'avait invité à une rencontre débat à Lille.
Et là, on
s'est rencontré ici. Ouais. Je suis là juste de passage en plus
aussi.
À Nantes.
Tu vois, ouais. Je me balade toujours avec mon bouquin.
Toujours avec le bouquin, ouais. Ouais.
C'est de sa faute. Non, mais c'est pas, il est pas, c'est, il fait faire des trucs pas normaux.
C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui t'emmène à Nantes ?
Eh ben, répondre aux questions de Michel. Et puis après, je vais faire une présentation dans la librairie.
Juste passage, Zacharia.
Zacharia.
Et je suis là à Nantes, pas pour l'AMDH, mais parce que je fais partie de Greenpeace aussi.
Ouais.
Et on est là parce qu'on fait une campagne d'adhésion. Donc on a fait, pendant un mois, on a fait entre Normandie et on va jusqu'en Bretagne.
Ah ouais.
Rencontrer les gens.
Et donc vous êtes croisés
à Lille.
À Lille,
ouais. Ouais.
Je te tutoie ?
Oui, bien sûr.
Tu fais partie d'une association qui...
L'association marocaine des droits humains et on avait organisé un salon du livre sur la question d'exil, la citoyenneté, etc. Et son livre nous intéressait, du coup on l'a invité, on a débattu.
Et en quoi il vous intéresse en son livre ?
Surtout le traitement qu'ils ont fait de ce sujet-là, c'est-à-dire aller rencontrer justement des gens qui sont dans ces situations d'exil, raconter ces chroniques, etc. C'est ça que... Au lieu d'avoir un discours général sur l'importance de l'hospitalité, etc., de l'accueil, etc., là, c'est plutôt une autre démarche qui est intéressante. C'est pour ça qu'on a essayé, si tu te rappelles dans le débat, d'avoir les deux démarches, qui sont intéressantes. Ouais, pour moi, c'est pour ça que moi, personnellement, ce livre-là m'intéressait, parce qu'il y a cette démarche-là qui va voir justement le vécu des gens, etc.
L'hospitalité en France, c'est pas top ?
En France... J'allais dire partout aussi, c'est une question de moment civilisationnel qu'on vit, marqué par l'individualisme, etc., etc. Le rapport à l'autre qui est un peu biaisé par ce rapport à l'individu, mais aussi au profit, le capitalisme, etc. Donc ça a perverti un peu les rapports qu'on avait dans nos sociétés, etc. Donc en France peut-être, mais partout je pense que ça pose problème.
Ça, c'est un autre truc aussi qui me frappe aussi beaucoup. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, je ne sais plus avec qui. Il y a un peu une espèce de complaisance pour le sale aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les gens un peu cradins, tous les gens qui développent des pensées un peu xénophobes, un peu douteuses, un peu... Alors, eux, ils ont le droit à... Voilà, ils sont considérés comme des intellectuels. Je n'ai pas besoin de citer des noms. D'ailleurs, on les cite partout, donc vous voyez très bien de qui je veux parler. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a, plein de gens qui... vraiment plein de gens. Je vais prendre juste cet exemple-là. À Calais, et quand il y a eu un des mouvements là, les plus d'extrême droite, je n'ai pas besoin de le citer de toute façon, qui s'est monté, ils étaient quoi ? Allez, une quinzaine. Au bout d'une semaine, le pseudo-leader, il était sur France Info. C'est quand même délirant. Ils sont 15 excités d'ultra-droite et ils ont le droit à France Info. Je discutais de ça et 10 minutes après, quelqu'un qui me dit « Ah ben tu sais, il y a les douches qui sont organisées par le Secours catholique, etc. » C'est 2000 personnes dans le Calaisis qui viennent, 2000 bénévoles qui venaient pour se relayer, pour organiser les tournées du camion douche qu'ils faisaient à l'époque tous les camps, il n'y avait pas encore le bidonville à unifier. Et ben ces 2000 personnes, je pense qu'il n'y en a aucune qui est allée parler sur une grande radio nationale. Et pourtant, ben voilà, elles sont objectivement plus nombreuses. Donc, à un moment donné, ça savoir à qui on donne la parole et pourquoi, et qu'est-ce qui fait vendre, qu'est-ce qu'on pense qui fait vendre. Finalement, quand on regarde les grands héros de notre époque, enfin, je veux dire, les gens auxquels on se réfère, on se réfère à qui ? On se réfère à Gandhi, on se réfère à Mandela.
à Martin Luther King. Voilà, des gens qui ne sont pas de notre époque, mais disons qu'ils sont des figures un peu tutélaires comme ça, voilà. Bah, c'est pas, je veux dire, il n'y en a aucun des trois qui était un gros salopard, quoi. Et donc les gens qu'on nous présente comme des intellectuels et qui ont un discours un peu cradingue, dans 10 ans, tout le monde les aura oubliés, tant mieux. Bon, je pense qu'on ferait mieux de construire avec des figures plus positives, et pas forcément d'ailleurs avec des personnes considérées comme, voilà, comme des personnes intouchables, mais il y a plein de gens dont on peut parler, vraiment plein de gens.
On va les laisser taffer, ouais, parce qu'il ouais, est au rendement.
Aller, hein. Rencontrer les gens, non, pas du tout. Non. Pas chez Greenpeace quand même. non, ben sinon je ne me permettrai pas de prendre du temps avec vous, non, au contraire.
Non, mais ça m'a fait super plaisir de te voir.
Ça fait plaisir, et continue.
D'accord.
Bonne cultivation, toi aussi.
Je repasserai à Lille, de toute façon.
Ça roule, ça marche.
Non, pas longtemps, je repasse toujours.
Au plaisir. Allez, bonne journée.
À toi aussi, ciao.
Naît-on ou devient-on migrantophile?
C'est une bonne question et je vous remercie de l'avoir posée, comme dirait l'autre. Je crois que c'est pas forcément une bonne chose. Je pense qu'on peut avoir une curiosité, on peut avoir de l'admiration pour des trajectoires, on peut avoir un investissement aussi humain, politique, militant, enfin voilà, pour la défense des personnes, au-delà des sympathies qui sont créées par ailleurs, hein, d'ailleurs, parce que voilà, c'est par principe qu'on doit défendre le droit des personnes, pas simplement parce qu'on les trouve sympathiques, même si beaucoup d'entre elles le sont par ailleurs, et que ça aide aussi à voilà être motivé sur ces questions-là. Après, je pense que voilà, on n'est pas, moi, j'aime pas trop catégoriser les gens, donc ouais, il y a des sédentaires très sympathiques, il y a des migrants très sympathiques. Non, on peut devenir humanophile, par exemple, humaniste tout simplement, enfin, ou même si ça ne suffit pas, moi j'aime. Voilà, je me dis que voilà, les êtres humains. Je suis aussi un grand militant pour la cause animale. Donc même le mot humanisme me semble parfois un peu étroit.
Voilà. Olivier, ma dernière question. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure d'interview en marchant?
Ah, c'est toujours très sympathique. C'est toujours très sympathique, plein de surprises. Voilà, plein de rencontres aussi. Non, moi j'aime bien. De toute façon, je pense qu'il faut faire beaucoup de choses en marchant. Commencer par penser. C'est Nietzsche qui disait ça, c'est pas. On n'a rien inventé.
Merci à Olivier Favier, l'auteur de Chroniques d'exil et d'hospitalité, livre paru aux éditions du Passager clandestin, et merci à
Louise,
Pierre,
Laurine,
Jamie,
Zacharia,
pour leur libre participation à ce reportage réalisé avec la complicité de la librairie
Les Bien-Aimés, qui est très agréable pour moi depuis que ce livre est sorti, ça fait pas très longtemps, mais comme j'ai fait pas mal de présentations, j'ai déjà croisé quelques personnes qui l'ont lu ou qui ont réagi à certaines choses, et ce qui me fait plaisir finalement, c'est que les gens qui me disent des choses positives sur ce livre me disent des choses positives qui sont un petit peu ce qu'ils m'ont fait écrire. Donc le message que j'avais envie de faire passer, qui est ce qu'il est, qui n'est peut-être pas suffisant, qui n'est pas le seul à faire passer, qui n'est pas, voilà, que certains peuvent trouver secondaire, etc., j'en sais rien, mais en tout cas voilà le pourquoi de ce livre. En tout cas, je pense avoir atteint mon objectif si j'en crois ce que m'en disent les personnes qui m'en parlent.
Olivier Favier est aussi le créateur du site www.dormirajamais.org.